Bonsoir, donc moi c'est Oumu et un lundi sur deux, comme l'a dit Baye tantôt, je présente une chronique littéraire. Je suis contente d'être là, même si aujourd'hui c'est ma dernière chronique de la saison. Si tout va bien, je reviendrai en septembre. Donc aujourd'hui, je reçois Radjoul, auteur du livre Créolisé le Québécois aux éditions Somme Toute. Radjoul, tu es né au Togo, anciennement journaliste politique, sociologue de formation et tu es arrivé au Canada en 2016. Tu poursuis des études internationales à l'Université Laval et tu es aussi libraire. C'est comme cela d'ailleurs qu'on s'est rencontrés. Par un pur hasard, j'ai trouvé que ton livre était en plein dans l'actualité. Nous aurons l'occasion d'en discuter. Merci Radjoul d'avoir répondu à l'invitation et d'être au studio avec nous.
Tout plaisir est pour moi.
Alors, j'ai un petit rituel. Je demande toujours aux auteurs que je rencontre comment ils sont tombés dans l'écriture, car ça me permet d'en savoir plus sur les auteurs. Donc Radjoul, comment es-tu tombé dans l'écriture ?
Par la lecture. Je suis un lecteur extrêmement pointilleux. En général, quand je lis des livres, j'ai souvent tendance à voir les chemins que les auteurs abandonnent, les friches, les chemins, des idées laissées en friche. Donc à partir de là, j'écris d'une certaine manière pour combler les trous que je trouve dans les lectures des autres. Je me dis, ah, il aurait pu aller plus loin. Pourquoi est-ce qu'il pousse pas dans cette direction? S'il poussait dans cette direction, et on peut réemployer ce qu'il a dit là dans telle autre direction. Donc c'est ce qui au quotidien me pousse à lire, à continuer de lire, parce que pour écrire une seule page, il me faut en lire au moins une dizaine, donc je lis beaucoup, et voilà.
Ok, donc en fait, tu es un grand lecteur, tu lis combien de livres par année, à peu près?
J'achète beaucoup, on va commencer par dire ça comme ça, donc je suis un acheteur un peu compulsif de livres, hein, parce que étant donné que je travaille dans une librairie, ça fait que bon voilà, on peut pas résister à ça, et je lis plusieurs livres en même temps, je lis pas que des livres, je lis beaucoup aussi des articles scientifiques, étant donné que j'ai une formation plutôt tournée vers tout ce qui est articles scientifiques, mais de temps en temps, mes lectures sont plus centrées sur les essais, moins de la fiction, je le regrette d'ailleurs, mais la fiction également me nourrit. Bah, cette année, je crois, on est déjà en avril, bientôt juin, on est en juin, voilà. En juin, je crois avoir acquis plus d'une trentaine de livres que je lis tranquillement.
Bravo, vraiment bravo. J'ai pas mal de questions, dont le titre, Créoliser le Québécois, réflexion sur la langue. Donc on va parler de Créoliser le Québécois plus tard, mais réflexion sur la langue, l'identité et le rapaillement. Alors, moi, ma première question, quand j'ai lu ça, je me suis demandé qu'est-ce que ça signifie, le rapaillement ?
Ah, le rapaillement, j'emprunte la notion ou le concept au grand poète national québécois qui s'appelle Gaston Miron. Pour ceux qui le connaissent pas, il a écrit un très grand livre qui s'appelle L'homme rapaillé. À partir de là, il y a une linguiste aussi célèbre au Québec qui s'appelle Anne-Marie Bégin-Baudouin qui a écrit un livre qui s'appelle La langue rapaillée, en parlant de la langue française pratiquée au Québec. Et à partir de là, moi, je reprends ce concept de rapaillement, mais en essayant de le pousser un peu plus loin, comme je disais en introduction, parce que je considère que le rapaillement tel qu'il a été conçu jusqu'à présent était un rapaillement autoréférentiel, c'est-à-dire qu'on ne rapaillait que dans le tissu de la seule langue française. Et à partir de ce moment, j'en suis venu à la conclusion que on peut faire un rapaillement plus inclusif. Le rapaillement inclusif, c'est ce qu'on appelle ce qu'on appelle au Québec ici le joual, c'est une langue qui a émergé spontanément comme ça, mais dans les années 60 et 70, ça a été conduit parce qu'on estimait justement qu'il rapaillait trop avec l'anglais et qu'il n'était pas trop conforme avec le français racine française pure que les intellectuels, toute une série d'acteurs sociaux ont considéré que cette langue-là n'avait pas droit de citer. Donc moi, je reprends un peu ce fil-là en disant qu'il y a moyen de faire un rapaillement inclusif, c'est-à-dire qui va dans le sens de... C'est là-bas que je rejoins le concept de créolisation, mais dans le contexte québécois, il y a un équivalent fonctionnel qui serait le concept de métisserie. La métisserie qui est utilisée par un poète québécois comme Jean Désy, qui élabore beaucoup là-dessus, la métisserie, parce que lui dit « ma langue n'est pas la langue française de France, mais c'est une langue qui se métisse avec les amérindianismes. » Il pratique beaucoup les populations autochtones ici. Donc, moi, ce que j'entendais par créoliser le Québécois, c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire que rapailler, métisser, créoliser avec l'anglais, pour aboutir à ce que j'appelle un entrelangue de compromis. Un entrelangue de compromis, c'est ma définition d'une langue créole. Et cette langue créole-là, il y a eu un candidat langue, ça a été le joual, il a été conjugué, donc je l'évoque en termes d'hypothèse, en termes de possible, parce que dans ce livre, mon effort a été de réfléchir à ce qu'on appelle l'insécurité linguistique au Québec. Il y a une question d'insécurité linguistique qui se pose ici au Québec et au Canada, et qui est une question extrêmement sensible au Québec, parce que la présence de la langue anglaise, récemment l'adoption de la loi 96, la loi 101 auparavant, dit qu'il y a une série de crispations autour du rapport entre les deux langues. Donc, créoliser, c'est un peu ça.
Justement, je voulais revenir un peu plus tard sur ça. Donc, créoliser le québécois est divisé en plusieurs chapitres. Personnellement, j'ai été impressionnée de toutes les références que tu nommes, des auteurs, livres. Tu avais des références Frantz Fanon, d'autres écrivains comme Rousseau, Elena Ferrante, et j'en passe. Tu parles aussi des 11 nations autochtones. Tu as parlé de Jean Dédy, Naomi Fontaine, Naomi Canapé Fontaine, Joséphine Bacon. Tu fais aussi des comparaisons avec l'Afrique. C'est vraiment du beau travail, vraiment. C'est vraiment impressionnant, je le redis, parce qu'il y a vraiment beaucoup de références dans ton... Même si parfois, si c'est pas écrit, ben, tu sais, c'est très subtil, donc j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je me suis régalée en lisant ton livre, même si parfois je trouvais que tes mots étaient un peu compliqués, mais je pense que c'est fait exprès, parce que moi j'aime les choses simples, mais ça c'est que mon avis. Ça nous permet aussi d'utiliser des mots qu'on n'utilise pas souvent, parce que comme tu l'as dit, ben tu as expliqué le mot rapaillement. Personnellement, je ne l'avais jamais entendu, métisserie quelques fois, mais c'est le fait de le mettre en avant dans ton livre, je trouve que c'est super. D'ailleurs, ces mots ont été surlignés en rouge dans mon fichier quand je les ai écrits, comme si ça n'existait pas. J'ai beaucoup apprécié le fait aussi que les mots que tu utilisais en québécois étaient en italique. Et j'ai été déçue que tu utilises l'expression « cerise sur le gâteau », car ici, on dit « cerise sur le sundae ». Donc voilà, au début tu parles du peuple québécois que tu catégorises comme un peuple à la main chaude et au gros cœur qui offre son hospitalité de façon inconditionnelle aux premiers venus sans espérer grand chose en retour. Tu parles aussi du choix du Québec et tu dis avoir choisi les Québécois entre autres en raison de la langue française. Tu dis aussi que tu es en admiration profonde pour la France et tu cites des auteurs français. Tu écris aussi que les Noirs américains ont ceci avec les Québécois de commun, c'est qu'ils se colonisé de l'intérieur. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus ce que tu veux dire par là?
Ah, ça c'est vraiment la patate chaude que tu me refiles là en ce moment, parce que la question de la présence ou de la symbolique du nègre, je me permets d'utiliser ce mot parce que moi j'ai pas peur des mots, ici au Québec, ça se joue depuis les années 60, où il y a un très grand livre de Pierre Vallière qui a écrit un livre qui s'appelle Les Nègres Blancs d'Amérique. Et dans cette convocation de la figure du nègre, c'était pour dire, il n'y avait pas que lui, il y a Jacques Brault et d'autres acteurs de l'époque, Gilles Bourque aussi qui allait dans cette direction, qui expliquait que bon voilà, il y a une prise de conscience politique qui se réalise au Québec à la fin des années 60, début 70, sur qui est un radicalisme de gauche et une expression d'une forme de solidarité en se reconnaissant dans la condition qui était faite aux populations noires aux États-Unis, en considérant que nous sommes traités comme les nègres, comme les États-Unis traitent leurs nègres, les populations noires aux États-Unis. Donc, cette revendication d'une sorte de négritude ou de négrité au Québec était le moment d'une forme de prise de conscience des conditions sociales particulièrement difficiles qui étaient réservées aux populations québécoises. Donc, moi, je considère que c'était un moment de haute intensité, de solidarité. Aujourd'hui, ça fait beaucoup polémique parce que, bon, voilà, il y a la question du mot haine que beaucoup de gens voudraient faire disparaître. Du coup, c'est un livre qui est aujourd'hui un peu critiqué de toutes parts. D'ailleurs, dans le prochain bouquin que je vais sortir, j'écris quelques phrases là-dessus parce que je considère que c'est extrêmement important de faire la part sur cette question-là qui n'est pas faite aujourd'hui, parce que un élément qui me semble extrêmement important, c'est que la convocation de la figure du nègre, ce n'est pas pour dire nous sommes des nègres, une sorte d'assimilation infantile à la condition, ou une façon de relativiser les violences et les outrances qui ont été faits aux populations noires dans l'Atlantique esclavagiste depuis le 16e siècle. Donc, c'est pas ça le propos. Le propos, c'est une forme, c'est l'expression d'une forme de solidarité avec la condition noire, en disant que bon, voilà, nous sommes solidaires. Et d'ailleurs, Montréal a été l'un des bastions des Afro-Américains dans leur lutte pour les droits civiques. Et également, beaucoup de Québécois, notamment des gens du FLQ, se sont déplacés aux États-Unis et ont travaillé avec les Black Panthers et d'autres organisations noires pour la défense des causes noires, parce qu'il y avait... C'était le moment du tiers-mondisme. Il y avait une sorte de solidarité entre les populations du Sud. Et les mêmes Québécois étaient solidaires de lutte des Palestiniens. C'était les radicaux de gauche, une sorte de jeunesse radicale de gauche. Donc c'est plus dans ce sens-là que je disais que voilà, il y a cette identification. Mais voilà, aujourd'hui, cette question serait extrêmement longue à aborder ici.
Ouais.
C'est pas le propos du bouquin, mais comme je dis, il y a un bouquin sur lequel j'élabore plus sérieusement là-dessus.
Oui, je trouvais ça, bon, ton explication, je comprends, mais je trouvais ça quand même un peu fort, la comparaison que tu avais faite. C'est pour ça que je voulais en parler.
Elle n'est pas de moi, elle a été faite par Pierre Vallière,
okay,
qui a écrit un bouquin qui s'appelle «
Ok, je ne connaissais pas, mais d'Amérique. Je vais le lire avant de t'inviter pour la prochaine fois quand tu écriras ton prochain livre. Moi, je pense que mon chapitre préféré, c'est « La littérature française n'est que la fille aînée des littératures francophones ». Pour être honnête, je n'y avais jamais pensé, car ça fait longtemps que j'ai quitté la France. Et en lisant ce chapitre, je me suis demandé comment j'étais passée à côté de ça. Tu dis, je cite, « La littérature française n'est qu'une littérature française parmi les autres ». Je me suis trompée. Péjorativement connotée, l'appellation littérature francophone est tout sauf neutre. On n'a pas cette classification au Québec, et heureusement. Tu cites aussi que la littérature québécoise est jeune, énergique et fougueuse comparativement à la littérature française qui est au bord de la dépression nerveuse. J'espère en tout cas que cette classification va disparaître. Je trouve aussi que la classification en France est complètement décalée. Bref, on est en plein dans l'actualité, parce que dans le chapitre 6, ce qu'il faut préserver, c'est le variant québécois et non défendre la langue française. On est en plein dedans, parce que tu dis que le québécois pourrait hypothétiquement disparaître, qu'il faut distinguer le québécois de l'avenir de la langue française. Tu dis aussi que dans le québécois, il y a des mots anglais, il y a plus de mots anglais dans le québécois que l'inverse. Alors que, comme on est en plein dans l'actualité, que penses-tu des différents projets de loi là, qui ont été votés concernant ce sujet?
Je considère que l'un des paradoxes de ces projets de loi, c'est la question de la minorité qui est posée. Parce qu'il y a une minorité anglo-québécoise qui exprime aussi ses droits, et probablement à bon droit. Et c'est une minorité que la francophonie québécoise et les autres francophonies canadiennes, parce que la francophonie n'est pas limitée qu'au Québec, au Canada. Dans quasiment toutes les provinces du Canada, il y a des minorités francophones qui, à l'instar de la minorité anglophone ici au Québec, s'émeuvent à chaque fois qu'il y a des tours de vis en ce qui concerne les politiques linguistiques. Je considère que c'est le droit le plus absolu des Québécois de défendre le français. Personnellement, je suis très attaché à la langue française. Je n'ai pas de problème avec. Je la revendique comme ma langue maternelle. Voilà, je considère que le français est une langue africaine comme les autres. Donc,
Africaine.
Oui, tout à fait. Parce
que j'écoutais Stratudium qui disait dernièrement dans une interview, qui disait il y a quelques jours, qui disait que en fait, c'est la langue du colon, mais c'est aussi la langue qui lui permet de s'exprimer avec d'autres personnes d'Afrique.
Saint-Gor le dit très bien, c'est notre butin de guerre.
Mm-hmm. C'est ça qu'elle disait.
Tout simplement. Donc, c'est une langue africaine. On ne peut pas évacuer le passé en disant que ça n'a pas eu lieu. Le passé a eu lieu. Donc, désormais, on se l'a approprié, c'est notre langue. Et elle nous appartient. Nous pouvons décider de son avenir, parce que je dessine un peu ce qui se passe, j'analyse un peu ce qui se passe avec le Nouchi ou le Camfranglais, le Nouchi en Côte d'Ivoire, le Camfranglais au Clermont, qui sont des expériences linguistiques extrêmement intéressantes. Mais pour revenir sur le contexte, dans le contexte québécois, qui me semble extrêmement intéressant, je considère que l'un des problèmes, en tout cas l'une des difficultés qu'il va falloir résoudre, c'est notre rapport à la nation. Je fais un très long développement au début sur la question de la nation et son obstination, le fantasme de l'homogénéité, de l'unité qui est associée à l'idée de nation. Donc, quand vous êtes associé, en fait, c'est un package. Quand un peuple se rêve national, il a tendance à ne pas accepter la diversité. La France n'avait pas que la langue française. Elle n'a pas que la langue française. Quand le moment de la cristallisation moderne de la nation française est advenu, juste peu de temps après la Révolution française, on a commencé par traquer les parlers régionaux qui ont été réprimés pour que tous les enfants de France parlent français. Donc, le problème de la modernité, c'est l'une des questions de la modernité, c'est la question de un État, c'est égal à un peuple, c'est égal à une langue. Et à partir de là, le Québec est dans ce schéma-là. Ce schéma d'un peuple. Alors que ce que moi je dis, c'est le français. Peut-être la langue officielle du Québec, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui nuirait au français ou à l'avenir du français si on ajoutait, comme dans les pays africains ou je sais pas où, en Haïti par exemple, où le français est la langue officielle de l'État haïtien et le créole haïtien est la langue nationale? Rien n'est interdit. Dans les pays africains, les montagnes sont encore plus complexes. Genre, au Sénégal, comme vous le disiez si bien, au Togo, un pays que je connais un peu plus, il y a le français plus deux langues nationales. Donc, on peut associer, faire plus, quoi, tu vois. On est dans une logique de l'addition plutôt que de la soustraction. La nation est dans l'optique de la soustraction. Donc, cette loi-là, elle correspond typiquement à ce schéma-là. Tant qu'on ne rompra pas avec l'imaginaire national, on ne pourra pas penser un imaginaire des langues qui soit un imaginaire inclusif de la diversité. Et aujourd'hui, nous avons besoin de considérer la diversité. On ne peut pas dire que la minorité anglo-canadienne n'existe pas, anglo-québécoise n'existe pas. De la même manière que nous nous émouvons à chaque fois que des atteintes sont portées aux droits des franco-ontariens ou des franco-manitobains, etc.
Je comprends. En tout cas, c'est super intéressant. Merci beaucoup, en fait, d'avoir écrit ce livre parce que sincèrement, j'ai trouvé super intéressant et en plus, en ce moment, il est en plein dans l'actualité. Donc, Radio, où est-ce qu'on peut te retrouver pour ton. Où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Me retrouver ?
Oui. Suivre ? Est-ce que tu as des réseaux sociaux, par exemple ?
Ah oui. C'est vrai que depuis quelques temps, je me fais rare sur les réseaux sociaux parce que je considère que je suis un peu fatigué de ces interventions publiques et des polémiques qui en suivent. Je consacre toute mon énergie à écrire mes prochains bouquins. Et si vous voulez, c'est le drame de ma vie parce que je cours après plusieurs lièvres à la fois. En ce moment, je suis en train d'écrire en même temps 5 bouquins. Donc, ça fait que j'ai suffisamment pas de temps de libre pour traîner sur les réseaux sociaux. Mais j'ai un site personnel, rajulmohamadou.com, où il y a quelques archives de ce que j'ai écrit là-dessus. Et de temps en temps, j'interviens sur les réseaux sociaux. Sinon, vous pouvez me trouver physiquement à la librairie La Liberté, où je suis présent quelques jours dans la semaine.
Super, merci beaucoup Radul d'avoir répondu présent à l'invitation, merci.